Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus.
9h07 jusqu'à 10h, vous pouvez nous appeler 0826-300-300 si vous voulez réagir sur l'actualité, sur le port du masque, sur l'affaire de Nicolas Hulot, donnez votre avis bien entendu. Et on en parle ce matin avec Arlette Chabot, Elisabeth Lévy. Ou 0826-300-300.
Oui, bien sûr. Alors, avant de revenir et d'en parler, on va aussi, bien sûr, réécouter ce qui s'est dit ce matin sur notre antenne à Sud Radio. Parce que nous avions évidemment deux invités, Sandrine Rousseau et Marlène Schiappa. Il y a eu donc ces témoignages hier soir dans l'émission Envoyé spécial pour des faits qui auraient eu lieu entre 89 et 2001, me semble-t-il, hein, c'est ce qui était évoqué et dit hier soir lors de l'émission. Avec derrière tout cela, puisque les faits sont prescrits par la justice, quelles éventuelles suites judiciaires possibles, quoi ? C'est la question de cette prescription pénale, celle factuelle avec vous ce matin, Félix Mathieu, qui se pose.
Hein. Oui, des faits relatés hier soir qui remontent jusqu'à 89. Alors pour autant, depuis 2017, eh bien, les parquets peuvent ouvrir des investigations sur la base de faits prescrits. C'est ce que nous expliquait ce matin le magistrat honoraire Philippe Bilger, qu'on connaît bien sur Sud Radio. Ils peuvent ouvrir des investigations, ne serait-ce que pour vérifier qu'il n'y a pas de faits similaires plus récents, de plaintes potentielles qui pourraient être déposées et qui concerneraient là des faits non prescrits. En tout cas, des investigations supplémentaires pour chercher d'éventuelles nouvelles plaintes. C'est ce que souhaite l'ex-candidate à la primaire écologiste Sandrine Rousseau, invitée du Grand Matin Sud Radio.
On doit ouvrir une enquête, on doit appeler à des témoignages parce que probablement qu'il y a plein d'autres femmes. Et on l'a vu d'ailleurs depuis le reportage d'hier, il y a déjà de nouveaux témoignages. Quand on a une attitude comme ça, qui a l'air d'être un mode opératoire très rodé, évidemment il a continué. Je n'ai aucun doute sur le fait qu'il y ait des victimes plus récentes.
Voilà, l'opinion très tranchée de Sandrine Rousseau. Alors Marlène Schiappa, la ministre en charge de la citoyenneté au ministère de l'Intérieur, avait dit espérer dès hier que la justice puisse ouvrir une instruction. Pour autant, ce matin sur Sud Radio, eh bien, Marlène Schiappa se veut plus prudente sur ce point que Sandrine Rousseau.
Moi, je veux rappeler que seul un juge est fondé à dire si oui ou non des faits sont prescrits. Je n'ai pas de date, mais je veux rappeler que seul le juge peut dire si oui ou non c'est prescrit. Soit des gens ont des éléments et ont connaissance du fait que des viols ont été commis. Un viol, c'est un crime, je le rappelle, au sens du code pénal. Si des personnes ont connaissance du fait qu'un crime ait été commis, il faut dénoncer cela.
Une prescription récemment portée de 20 à 30 ans après la majorité pour les viols commis sur des mineurs et de 10 à 20 ans pour les agressions sexuelles en cas là aussi de minorité de la victime.
Merci Félix Mathieu, vous pouvez réagir et donc on pose d'ailleurs aussi la question hein, sur les réseaux sociaux. Est-ce que Nicolas Hulot par exemple devrait de nouveau s'expliquer après cette émission hier soir puisqu'il l'avait devancé hein, en s'expliquant en disant ce sont des mensonges etc. Avant-hier, hein, avant cette émission, puisqu'il savait évidemment qu'il allait avoir des informations qui allaient sortir. Et qu'est-ce qu'on en dit, Cécile ?
Eh ben, tout le monde nous dit non. Hein. Ils attendent effectivement d'avoir que les victimes portent plainte pour pouvoir s'exprimer. Voilà ce qui se dit en majorité sur les réseaux sociaux. Oui, ils disent que pour l'instant, il y a la présomption d'innocence.
Oui, même s'il y avait, attention, il y avait eu une plainte tout de même qui avait été déposée et il n'y a pas eu de suite. Arlette Chabot et Elisabeth Lévy. Elisabeth, vous voulez commencer en fait parce que je vous entendais déjà parler, oui.
Ah ben non, je parlais pas.
Mais
bon, peu importe, je vais parler maintenant. Ouais. Non, mais moi, je suis très inquiète de toutes ces affaires médiatiques. Et je crois que, tout simplement, il y a un certain délai. D'abord, il n'est pas dans les affaires de viol, c'est très compliqué, même quand la justice peut être saisie, parce que c'est très souvent parole contre parole. Et je vous rappelle que la justice a besoin de preuves. Il ne suffit pas qu'une femme, et je ne mets pas du tout en doute la parole de telle ou telle personne, mais simplement, il ne suffit pas qu'une femme se dise victime pour qu'elle le soit. Je veux dire, c'est comme ça, il faut des preuves et on ne peut pas sortir de là. Ça a l'air dur, mais on ne peut pas sortir de là. Donc déjà, quand on n'a pas dépassé le délai de prescription, c'est souvent improuvable, tout simplement parce que ça se passe en général dans des endroits où il y a deux personnes et que c'est parole contre parole.
À moins que la victime aille le... Elisabeth, ce que disaient quelques-unes des victimes, en fait, dans les témoignages hier, quoi, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas parlé aussi à l'époque pour certaines parce qu'elles craignaient de ne pas pouvoir être crues, parce qu'il y avait aussi la puissance médiatique et politique.
Alors il y a la puissance médiatique, mais il y a le fait qu'il n'y a pas... Y a le fait puissance médiatique, même si Nicolas Hulot était un sombre inconnu, si vous voulez, il y a le fait que, que même dans ces cas-là, il peut ne pas y avoir de preuves. Et donc, je crois qu'au lieu de raconter aux femmes... Si vous voulez, qu'elles obtiendront justice, qu'elles obtiendront réparation en allant à la télé, que ça valait rien. Je veux dire, je pense qu'il faut leur dire la vérité. C'est-à-dire que s'il y a prescription, elles n'obtiendront jamais justice. C'est terrible à dire, mais je trouve que c'est encore pire de les mener en bateau en leur disant que, alors oui, on va ouvrir une enquête quand même, parce que maintenant le parquet se prend pour une espèce d'assistante sociale, alors ils vont faire du bien aux gens.
Non, c'est pas tout à fait ça, Elisabeth. C'est pas tout à fait ça, quand même, Arlette Chabot.
Je veux dire, Elisabeth a raison sur le fait que finalement c'est difficile, parce que c'est souvent parole contre parole. Néanmoins, je pense que effectivement, je pense moi que dans l'intérêt de tous et de toutes, la justice aura intérêt à reprendre ses dossiers, évidemment, et à recueillir des témoignages. C'est la justice qui peut dire si, oui ou non, il y a des fautes ô combien graves commises par Nicolas Hulot. Sinon, on s'en sort pas de ces affaires.
Sauf qu'il y a quand même prescription.
Peut-être pas
oui, il y a prescription, mais quand même, effectivement, la loi permet aujourd'hui de rouvrir, et s'il y a d'autres témoignages.
Même s'il n'y a pas de condamnation, mais il y aura, en tout cas, pour ces femmes...
Une enquête, c'est plus clair pour tout le monde, parce que Nicolas Hulot dit on ne peut pas être jugé par le tribunal médiatique. Oui. Et il va dans les médias pour le dire et dénoncer d'ailleurs le tribunal médiatique, ce qui est quand même un tout petit peu contestable. Bon, il préfère aujourd'hui effectivement ne pas répondre, ne pas s'expliquer. Je crois qu'il a raison, parce que de toute façon, il sera inaudible en ce moment.
Ça, c'est vrai.
Donc le plus simple pour tout le monde, c'est effectivement que la justice soit saisie d'une manière ou d'une autre. On verra. Je trouve effectivement que Sandrine Rousseau est très affirmative sur le fait qu'il y aurait d'autres témoignages à venir. On verra. Peut-être y en aura-t-il d'autres, plus récents, sur des agressions. Il y a quelque chose, en tout cas c'est vrai, qui s'est passé dans la société, c'est que ce que certaines pouvaient tolérer ou taiser il y a quelques années, aujourd'hui est intolérable et donne envie à tout le monde de s'exprimer. Et c'est pas n'importe qui, Nicolas Hulot, quand même, hein, attention. Je rappelle juste quand même qu'il a été pendant des années la personnalité politique la plus populaire et de France.
Il reste dans le top 5 ou dans le top 10,
voilà,
hein, bien
donc
sûr.
C'est comme, ce n'est pas
peut-être
rien.
Peut-être pas aujourd'hui.
Non, parce que notamment, il y en a d'autres qui sont effectivement passés. Mais je pense que c'était quand même une sorte d'idée idole pour tout le monde pendant des années.
Bien sûr,
l'homme
bien sûr.
Qui combat des grandes causes, d'ailleurs une de celles qui l'accuse hier le disait, c'est une personnalité importante, donc ça n'est pas rien. Et comme c'est une personnalité importante, il faut que ce soit exemplaire et que la justice tranche.
Elisabeth Damo et ensuite les auditeurs.
Alors, juste deux mots, le premier c'est que encore une fois, peut-être que la justice ne peut pas trancher.
On verra.
Et qu'il faut l'accepter. Non mais peut-être qu'à un moment la justice n'a plus les moyens de répondre, et c'est quand même pour ça qu'on a inventé la prescription. Et la deuxième chose, j'aimerais avoir l'avis d'Arlette, si vous me permettez, Patrick, sur l'aspect politique de cette affaire. Parce qu'on se rappelle que Nicolas Hulot a bénéficié il y a... Quand l'enquête de l'Hebdo était sortie, il avait bénéficié d'un soutien. Alors moi, je n'ai jamais été une fan de Nicolas Hulot, mais je déteste ce tribunal médiatique. Hein. Mais il a bénéficié aussi du soutien du gouvernement, de Marlène Schiappa, vous l'avez rappelé, Patrick. Donc, Arlette, est-ce qu'il peut y avoir des conséquences politiques à cette affaire?
Non, je ne crois pas, mais je trouve que c'est un tout petit peu contradictoire ce que vous dites, pardon, Elisabeth, mais vous dites à la fois présomption d'innocence, au fond, les collègues guillemets de Nicolas Hulot, et on entendait Marlène Schiappa tout à l'heure, s'appuyer sur la présomption d'innocence pour ne pas se jeter Nicolas Hulot en pâture, en disant attendons, donc c'est difficile de tenir.
Vous confondez ce que j'observe et ce que je défends, c'est-à-dire je ne pense pas que ce serait bien qu'il y ait des conséquences politiques. Je me dis, dans le monde dans lequel on vit, si vous voulez, est-ce que ça peut leur être reproché? Je ne dis pas qu'il faut leur reprocher,
non, je
suis d'accord avec vous.
Ils défendent encore une fois, la même théorie que vous, s'appuie sur le même argument qui est celui de la présomption d'innocence. Tant que la justice n'est pas saisie et n'a pas tranché, eh bien on pouvait effectivement imaginer qu'il y avait un paravent autour de Nicolas Hulot, qui, c'est vrai, il n'y aura pas de conséquences politiques, mais était quand même une très belle prise de guerre pour Emmanuel Macron en 2017.
Non mais ça c'est vrai.
Juste un petit message avant avec vos appels 0826 300 300. Jackie nous dit Nicolas Hulot a déjà été jugé comme coupable. La justice semble être chose inutile aujourd'hui.
Oui, c'est Christine qui est avec nous de Privas. Bonjour Christine.
Bonjour Christine. Oui, bonjour, bonjour Sud Radio, bonjour à tout le monde. Ben, c'est vrai que j'écoutais avec attention tout ce qui s'est dit là. Et moi, qu'est-ce que je pourrais dire? Mais moi, comment ça se fait que 5 jeunes femmes porteraient des accusations telles qu'elles le disent là? Pour quelles raisons? Pour se faire connaître? Pour faire... Moi, c'est la question que je me pose. Hein, je veux pas ni accuser Nicolas Hulot de quoi que ce soit. Hein. D'abord, comme vous l'avez toutes dit, il y a prescription d'innocence. Mais pourquoi ces jeunes femmes feraient ça?
Aujourd'hui,
pour quelles raisons? Je sais pas.
Je pense qu'elles n'ont rien les unes ou les autres à gagner. C'est juste ce qu'on appelle, j'aime pas beaucoup cette expression, mais une libération de la parole. C'est-à-dire, il y en a une qui parle et d'autres se sentent libres de dire aussi ce qu'elles ont subi. Et certaines, visiblement, été traumatisées par cette expérience ou des moments passés avec Nicolas Hulot.
Qu'elles disent se rapprochent un petit peu de la vérité, ou bien ce n'est que pure invention de leur part?
Ah non, voilà. A priori...
Non, non, on s'interdit de le penser, on s'interdit de répondre à cette question.
Excusez-moi.
Vous avez raison de poser,
Je suis effarée de voir tout... Bon, il y en a eu d'autres, il y a eu un acteur là que je ne nommerai pas. Ensuite, en ce moment, il y a plein de jeunes femmes qui déposent des plaintes comme ça. Moi, j'ai 70 ans. Hein.
Oui.
Sincèrement, à mon époque, c'était libre, il n'y avait pas de sous-entendu. Ben, maintenant, on a l'impression que le garçon, il vous dit bonjour, oh là là, c'est un drame.
Il y a eu des abus.
Je suis un peu déçu par rapport à ça.
Christine, il y a eu forcément des abus. Et puis, parfois, ce sont des abus un peu de pouvoir. Hein. C'est ce que disait,
c'est vrai.
C'est ça. C'est-à-dire, et des femmes qui idolâtrent en même temps des personnes. Et donc après, et ces personnes qui peuvent en abuser.
On avait un témoignage hier, Christine, qui nous disait d'une jeune femme qui avait été violée, qui disait quand j'ai entendu qu'il y avait d'autres personnes, je me suis dit finalement, elle se demandait si c'est pas elle qui avait provoqué les choses, et elle s'est dit peut-être pas finalement. Voilà.
Bon, en tout cas, c'est pas complètement clos cette affaire. D'accord. C'est pas clos. On va beaucoup encore en reparler. Elisabeth, d'un mot, parce qu'il y a une affaire qui va faire parler là. Donc
Merci Christine.
Merci à vous, et puis je suis toujours contente de participer à vos émissions.
Ah bah évidemment, 0826 300 300, vous nous appelez, vous avez le droit, évidemment, la parole. D'un mot, Elisabeth, on ne l'a pas évoqué en fait ce matin, parce qu'on va voir quelles sont les suites, c'est Closer, cette information. Deux mots dessus, Elisabeth, sur cette information de Closer.
Il faut le dire, Patrick, parce que là, tous les auditeurs ne l'ont pas eu, donc vous devez leur expliquer ce qu'il y a dedans.
C'est la Sarah Knafo, la conseillère d'Éric Zemmour, qui serait enceinte, selon le magazine en fait Closer. Je crois qu'il y a eu une tentative de référé pour interdire la sortie. Donc ça risque de faire beaucoup parler. Vous pensez que ça peut peser même dans la campagne, hein, dans la suite?
Alors, si ça pèse, je ne sais pas si cette information est vraie.
Oui.
Si elle est vraie, elle peut d'ailleurs peser dans un sens positif aussi, dans le sens où elle l'humaniserait. Alors après, j'ai vu sur Twitter, c'est assez dégueulasse, il est bien... Enfin, bon, moi je voudrais quand même dire deux choses. Encore une fois, je répète, je ne sais pas si c'est vrai.
Oui, c'est pour ça.
J'ai envoyé un message à un des avocats d'Éric Zemmour, parce que je suis très curieuse de lire le jugement du tribunal qui a refusé, si vous voulez, d'interrompre cette parution, parce que...
Ouais.
Là, il me semble qu'on franchit un cap, parce que là, on est dans le pur domaine de la vie privée. Je rappelle qu'Éric Zemmour a 3 enfants, ça c'est public, il a une épouse, c'est également public, c'est pour ça que je me permets de le dire, et que il faut quand même, à un moment, on peut aussi faire preuve d'un peu d'humanité. Cette information n'intéresse pas les électeurs éventuels, je suis navré. Je veux dire, d'autant plus que si c'est vrai, ça finira par se voir, donc je ne vois pas l'intérêt. Donc je trouve qu'il y a quand même... Là, on franchit un cap, et jusque-là, les tribunaux, quand même, protéger systématiquement la vie privée. Ouais. Alors peut-être que Closer sera condamné sur le fond, hein, le fait de refus en référé d'interrompre.
On verra et on va suivre. Hein. Merci Elisabeth, merci Arlette Chabot. Vos appels 0826 300 300, Félix Mathieu aussi. Alors vos appels, et il y a des gens, vous savez, aussi qui écrivent, forcément, ouais. Hein, et qui écrivent beaucoup. Hein.
Et il y a beaucoup de gens qui écrivent à Emmanuel Macron, qui reçoit à peu près, entre les mails et les lettres, 1500 courriers par jour, et puis il y a des gens qui s'occupent de gérer tous ces courriers. Vous allez voir que c'est trié hein, par catégorie, on en parle dans quelques instants avec notre
alors,
invité.
Depuis des années, on écrit évidemment au président de la République. Il y a tout un historique, c'est assez intéressant de voir
et
ça.
Et en fait, ça relate un petit peu de ce qui se passe dans la société, on en parlera avec notre invité, Julien Fretel, qui sera avec nous, professeur de sciences politiques à l'Université de Paris. À tout de suite.
Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus.
Il est 9h25. Est-ce que vous faites partie de ces Français, de ces 1500 lettres par jour que reçoit le président de la République? Eh ben, vous pouvez nous appeler, hein, 0826 300 300, si vous avez écrit au président, pas forcément au président Macron, mais en tout cas sur les quinquennats précédents. Et on en parle ce matin avec Julien Fretel. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes professeur de sciences politiques à l'Université Paris 2 de Panthéon-Sorbonne et co-auteur avec Michel Auferlé de Écrire au président, enquête sur le guichet de l'Élysée aux éditions de La Découverte.
Oui, Julien Fretel, on va voir que ça a été assez compliqué finalement d'accéder en fait à tout ça, vous allez nous dire parce que c'est un véritable bunker, mais juste avant quand même, pour dire aux auditeurs, on écrit sur quoi et pourquoi au président de la République, quel que soit le président Macron, mais on remonte à Valéry Giscard d'Estaing et d'autres quoi.
On écrit sur tout. Sur tous les sujets, alors ça peut être des sujets d'actualité, ça peut être ses sujets propres, ses problèmes propres, problèmes de santé, problèmes de surendettement, problèmes de voisinage, réflexion générale sur le fait qu'il n'y a pas assez de poésie en France, enfin, on écrit sur vraiment tout. Donc on ne peut pas dire qu'il y a un thème plus abordé que les autres, même si quand même ce qui revient souvent, c'est la question du pouvoir d'achat.
Oui, c'est la question du pouvoir d'achat. Et ce qu'il faut dire aux gens qui écrivent, ou ceux qui l'ont pas fait, c'est que tout ça, ça ne va pas à la poubelle. Quoi, hein.
Alors jamais, jamais. Ouais. Même quand c'est une lettre d'insulte, ça ne va pas à la poubelle. Ce n'est pas répertorié, ce n'est pas renvoyé au président de la République, mais on garde tout pendant tout le quinquennat. Ouais. Et tout élu. Voilà, toutes les lettres.
Alors donc il y a une grosse équipe quoi. Hein.
Il y a une grosse équipe, alors selon les présidents, entre 70 et 80 personnes.
70-80 personnes
les jours,
qui lisent.
Qui reçoivent les courriers, qui les lisent, qui les classent et qui y répondent aussi puisque...
Il y a une réponse systématique.
Alors si c'est pas une lettre dite véhémente, il y a une réponse.
Ouais. Mais c'est classé ensuite quoi aussi, alors, en fonction, alors puisque en fonction de l'intérêt, en fonction aussi du sujet abordé. Quoi.
Alors c'est aussi là-dessus qu'on a réfléchi, c'est classé globalement, il y a tout ce qu'on appelle les affaires réservées, c'est des gens, des personnalités, des élus, des chefs d'État. Donc là, ça va dans un service. Après, il y a tout ce qui relève de ce qu'on appelle les requêtes. Donc c'est des problèmes socio-administratifs qui renvoient à des questions liées, alors justement, aux caisses d'allocation familiale, des choses comme ça. Et puis, il y a un service dédié à recevoir l'opinion des Français. Donc des opinions considérées comme des réflexions politiques sur ce que fait le chef d'État, sur ce qu'il devrait faire, ce qu'il n'a malheureusement pas fait.
Et d'ailleurs, il en a tenu compte quand même l'année dernière, enfin tenu compte en tout cas lors de ses vœux, il a utilisé puisque il avait commencé par une série en fait de revendications ou de situations personnelles et ça il s'appuyait sur cette sélection de courriers.
Hein. Alors effectivement, Emmanuel Macron a eu un usage assez intensif des courriers. D'abord quand il est arrivé à l'Élysée, on sait qu'il a beaucoup lu, peut-être pour mieux connaître des Français qu'il ne connaissait pas, pour voir aussi si ces mesures atteignaient leur cible. Par exemple, sur la CSG, il a lu des courriers, il a renvoyé vers Bercy en disant « Mais alors, comment ça fonctionne ?» Des Français me disent que c'est pas comme moi je l'ai dit que ça se réalise. Et puis effectivement, petit à petit, il s'est appuyé sur cette matière pour chercher à incarner ses discours.
Mais c'est vraiment le poumon de la société ?
Ce qui est envoyé, alors, selon les quinquennats, on a entre 800 000 et 1 million de personnes qui écrivent. Peut-être que ça sera plus à la fin du quinquennat d'Emmanuel Macron. Donc, c'est pas tous les Français, mais j'ai envie de dire que toutes les catégories de Françaises et de Français écrivent. Hommes, femmes, vieux, plus vieux que je donne mes jeunes, y compris les enfants, ça c'est intéressant, toutes les classes sociales, voilà. et puis toutes les zones géographiques qui couvrent la France. Donc ça permet de prendre le pouls. J'ai envie de dire que c'est pas un échantillon représentatif, mais c'est un échantillon très significatif de ce que font les Françaises et les Français.
Oui, c'est ça. Il y a des exemples en fait de lettres. Je me présente, peu importe comment je m'appelle. Ce qui est important, c'est qui je suis. Une mère avec des enfants adultes, métis, des enfants dont certains sont au chômage, CDD, temps partiel. J'habite une cité, je travaille, je suis sur le terrain et donc à même de parler des problèmes du cœur de la France d'en bas. Travail, chômage, insécurité, etc. Donc voilà, ça interpelle directement. Là, je crois que c'était pour Nicolas Sarkozy, en fait, cette lettre.
Là, ce qui est intéressant, c'est que alors, quand les gens écrivent, souvent, ils disent ce qu'ils sont vraiment. Ouais. Donc, par rapport à des sondages, on a énormément d'informations, y compris il y a des gens qui vous disent combien ils gagnent et ils détaillent leur compte mensuel. Il n'y a pas de fil, puisqu'ils s'adressent à quelqu'un, ils ne s'adressent pas à tout le monde. Et puis, donc, c'est aussi en tant qu'eux qu'ils écrivent, donc ils disent quel est leur statut, et souvent ça va être au nom d'eux. C'est-à-dire que beaucoup disent « je suis une classe moyenne, je fais partie de ces Français qui travaillent, qui se lèvent tôt le matin ». Et dans ce que vous lisez, ce qui est intéressant, c'est que beaucoup essaient de dire « ben voilà, je fais exactement comme il faut faire, je travaille, je suis honnête, etc. » Et je n'y arrive pas. Et alors souvent, ça se ponctue par « venez découvrir notre réalité, sortez de votre tour d'ivoire, venez voir la vraie vie, les vrais Français ».
Est-ce qu'il y a des périodes où les gens écrivent le plus ? Je crois que pendant le Covid, forcément, il y a une accélération, mais au moment de Noël, où on parle du pouvoir d'achat, est-ce qu'il y a des courriers qui sont plus denses ?
Oui, effectivement, il y a des saisons, et puis il y a aussi des événements, par exemple, sous François Hollande, au moment des attentats. Mmh. Il y a eu énormément de courriers, les services ont été complètement débordés, puis assaillis et marqués par ce qu'ils avaient à lire. Voilà. Donc, il y a des saisons, la rentrée scolaire, reviennent des questions scolaires, Noël. Alors, certains écrivent en disant, mais je ne pourrais pas fêter Noël comme je le voudrais, ne pourrais pas offrir à mes enfants ce que j'ai envie d'offrir. Donc, effectivement, vous avez ça. Et puis, alors ça peut vous intéresser aussi, c'est qu'il y a beaucoup de réactions suite à des petites phrases, pas de journalistes, de responsables politiques. Donc, par exemple, pour Emmanuel Macron, les gens qui ne sont rien, le lendemain, il y avait un flot de courriers, de courriels. Donc, ces Françaises et Français qui écrivent sont très réactifs quand même à l'actualité politique.
Oui. On va continuer dans un instant avec vous, Julien Fretel. Où sont classées toutes ces lettres ? Parce qu'avant, c'était beaucoup des lettres. Aujourd'hui, évidemment, il y a une mixité avec les courriels.
Les courriels sont devenus majoritaires.
Majoritaires. Où est-ce qu'ils vont ? C'est un véritable bunker, puisque vous avez eu du mal quand même à mener votre enquête. Il a fallu du temps. On va voir ça dans un instant.
Appelez-nous, je vous le disais, si vous avez écrit un jour au président et s'il vous a répondu, appelez-nous, on vous attend au standard 0826 300 300.
Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus.
9h35, on rentre un peu dans les coulisses des présidents de la République, puisqu'on va dévoiler un petit peu son courrier avec Julien Fretel qui est avec nous, professeur de sciences politiques à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, et puis co-auteur de ce livre, Écrire au président, une enquête sur le guichet justement de l'Élysée.
Alors, où sont planqués ensuite, si je puis dire, ces lettres ? Maintenant, c'est beaucoup des mails, mais avant, c'était beaucoup des lettres.
Alors, planqué, donc bien évidemment, vous avez l'adresse officielle, 55 rue du Faubourg Saint-Honoré, mais en fait les courriers sont acheminés de l'autre côté de la Seine, à côté du musée du Quai Branly, pour des raisons de sécurité aussi, parce que tout courrier, alors quand on est sur du courrier, pas du courriel, tout colis, parce qu'on envoie aussi parfois des cadeaux au président de la République, va être examiné de très près pour s'assurer qu'il n'y a pas d'anthrax, par exemple. Bon, et ensuite, le service va ouvrir le courrier et l'acheminer vers différents services. Donc, c'est entreposé dans un service dédié, et puis, alors, ce qui est important, c'est qu'est-ce qu'on va faire remonter au palais, comme on dit, c'est qui va repartir à l'Élysée et qu'est-ce qui va arriver sur le bureau du président et qu'est-ce que le président va lire et signer en main propre ou pas signer si c'est son directeur de cabinet ou si c'est une signature électronique.
Et il y a des présidents qui lisent plus que d'autres ?
Alors, je vous ai dit, il nous a semblé qu'Emmanuel Macron avait beaucoup plus lu que les autres. C'est aussi parce que les autres, alors François Hollande et Nicolas Sarkozy, eux avaient été des élus locaux, avaient cette longue habitude du courrier, de la permanence, et donc connaissaient bien, en fait, cette interpellation citoyenne. Donc, ils en ont lu, Nicolas Sarkozy et François Hollande, mais dans une moindre mesure que Emmanuel Macron, qui avait vraiment besoin de ça pour prendre le pouls et puis pour devenir un élu en contact avec une population.
Et à qui ça appartient ? Ça appartient à l'État, ces courriers ?
Ah, non, ça appartient au président de la République.
Ouais. Ah oui.
Ah, donc, voilà. Il a le droit de partir avec ?
Il a le droit de partir avec. Alors, il part
sauf
rarement
si
avec.
Sauf si c'est écrit présidence de la République, c'est pas nécessairement.
Même
si
c'est au président, c'est sa propriété. Donc, c'est pour ça que quand on a été autorisé à contacter certains scripteurs, scripteuses, par François Hollande, c'est parce qu'il nous a donné son autorisation, parce que c'est à lui. Alors, à la fin du quinquennat, ce qu'il faut savoir, c'est qu'éventuellement, un président peut partir avec quelques lettres, voilà, qui l'ont marqué. Ouais. Mais sinon, tout est détruit, sauf 10% tiré au hasard et qui est envoyé aux archives nationales.
Ah, tout est détruit, en fait.
Tout est détruit, sauf 10%,
ouais.
Qui est envoyé aux archives nationales.
C'est étonnant, quand même, non ? Pourquoi ? Parce que c'est parti d'un peu de la correspondance finalement intéressante.
J'ai jamais été
quoi,
dans la peau d'un président de la République, mais que faire de 1 million de courriers ? Je ne sais pas ce qu'on peut en
Parce
faire.
Parce que peut-être qu'une personnalité, quelqu'un peut devenir illustre des années après et on pourrait les numériser aujourd'hui.
Alors,
c'est
de plus en plus numérisé. Ah. Sans doute qu'il peut y avoir un fichier, peut-être qu'il peut y avoir une sorte de mémoire. Mmh. Mais c'est vrai que d'un quinquennat à l'autre, quand on change de président, c'est comme si tout disparaissait et qu'on redémarrait à zéro. Mmh. En fait.
Parce que la lettre qu'avait envoyée Patrick Roger à Charles de Gaulle, peut-être qu'aujourd'hui, il aurait fallu la garder. Oui. Non, je plaisante.
Oui. Et alors, donc, l'impact derrière évoqué...
Sur le président ou sur...
Non, sur les gens, quand on leur répond.
Alors, ce qu'on a vu, c'est qu'une réponse a produit beaucoup d'effets. Voilà. Ouais. Des gens qui n'ont pas de réponse. En plus, quelqu'un qui n'a pas de réponse, c'est quelqu'un qui va réécrire souvent. Ouais. Par exemple, au début du quinquennat de François Hollande, en fait, il y avait des changements de service, il y a eu des problèmes de logiciel. Mmh. Et donc, il y a eu énormément de retard dans le traitement des courriers. Et plus il y avait de retard, plus il y avait de courriers de relance, de gens qui disaient « mais vous ne m'avez pas répondu ». Donc, c'est important de répondre et c'est important pour les scripteuses et les scripteurs de recevoir une réponse. Ça produit beaucoup d'effets. Le président m'a répondu, même si ce n'est pas sa signature, même si on imagine que c'est une lettre type.
Ouais.
C'est la
il faut l'adapter
des choses.
D'ailleurs les lettres types à chaque fois, non ?
Alors c'est un travail important parce que donc il existe des lettres types. Il faut que le service soit efficace, mais parce qu'on a lu la lettre, on l'adapte, on la personnalise un petit peu, donc on modifie un certain nombre de choses et puis on fait attention parce que si c'est quelqu'un qui a déjà écrit. Alors, on ne va pas écrire la même chose. Et puis, de plus en plus, les lettres reçues, les courriels reçus par les individus qui ont écrit au président peuvent être mis sur les réseaux sociaux, vont être communiqués. On a imaginé à peu près qu'une personne qui reçoit la réponse du président va la faire lire à une quinzaine de personnes.
D'accord.
Ah
donc,
oui, quand
et
même.
Donc, c'est important aussi politiquement pour l'Élysée de faire attention à la réponse parce que c'est quelque chose qui va circuler. Dans le livre, on dit que Barack Obama avait un usage très intensif, très perfectionné des courriers et qui, lui, avait imaginé que quand on faisait une réponse, en fait, on créait une sorte de communauté de lecteurs de cette lettre. Et ça circule, donc il faut faire très attention.
Est-ce qu'en matière de politique, il y a une espèce de sondage interne sur des courriers, de mots qui reviennent régulièrement, la colère, la révolte, les choses comme ça, où effectivement, quelqu'un entasse les mots quelque part pour se dire que voilà, ça pourrait arriver ?
Alors, très bonne question. Sous François Hollande, le service qui reçoit notamment les lettres d'opinion politique, pour aller vite, s'est évertué à classer, répertorier, faire des statistiques. Donc, en fait, on transforme des lettres en chiffres. Mmh. Voilà. Et donc, le président recevait une synthèse toutes les semaines, son cabinet aussi, pour savoir ce qu'on lui disait. Avec une forme de sondage, c'est, voilà, il y a tant de pourcents qui approuvent votre politique, tant de pourcents qui critiquent, tant de pourcents qui sont sans positionnement. Mmh. Et voilà quels sont les thèmes qui reviennent. Alors, à l'époque, c'était pas des mots, mais c'est vrai que sous Emmanuel Macron, le service s'est modernisé avec des algorithmes. Mmh. Et donc, maintenant, on peut avoir des nuages de mots.
Mmh. Eh oui, c'est
ce qui revient,
eh oui.
Colère, pouvoir d'achat, chômage, pandémie. Donc effectivement, il y a vraiment une saisie au plus près de ce qui est contenu. Et j'ajoute que sous Emmanuel Macron, désormais, en fait, on croise ces données très riches avec d'autres données, c'est-à-dire ce qu'on trouve sur les réseaux sociaux, ce qu'on trouve aussi dans des sondages, même si l'Élysée n'a pas le droit de... commander des sondages.
Bon, écrire au président, merci Julien Fretette. Donc, les gens se procurent l'adresse internet, c'est assez facile, non ?
Il suffit d'aller sur le site de l'Élysée et tout est expliqué.
Bah, voilà, c'est
ça. C'est quoi la formule de politesse pour le président de la République à la fin ?
Alors, on vous propose plusieurs formules de politesse sur internet, donc voilà.
Le noter.
Mais c'est vrai que les gens aussi le font librement, mais souvent c'est assez respectueux.
Bisous. Ouais.
Non, il peut y avoir des bisous, il y a des lettres drôles comme ça, auxquelles on répond.
Bien sûr.
Merci, c'était passionnant. Julien Fretel, Michel Orfelet, écrire au président, donc c'est aux éditions La Découverte, enquête sur ce guichet particulier d'Élysée, 60 à 70 personnes quand même. Ils ont quelle formation d'ailleurs, ces personnes?
Alors, beaucoup sont des fonctionnaires détachés, soit du ministère de l'Intérieur, soit de l'Éducation nationale, et puis vous avez des jeunes en contrat plutôt de type privé, qui ont fait sciences politiques, donc qui sont passés chez nous, à Paris 1 ou à Sciences Po, et qui ont un certain goût pour la politique, qui savent écrire, c'est important, pas faire de faute d'orthographe.
Oui, dans un instant,
dans
Cécile.
Dans un instant, on va vous parler. Est-ce que vous achetez des... Tiens, tous les deux, Julien, vous achetez des secondes mains en vêtements, ça vous arrive ou pas?
Faudrait que je le fasse.
Et Patrick Roger?
Oui, moi je l'ai fait. Je fais un petit peu moins en ce moment, je n'ai plus le temps d'acheter quoi que ce soit.
On va vous en parler dans un instant, puisque c'est un marché qui va presque détrôner le vêtement neuf. Vous allez voir, c'est vraiment une tendance.
Ah, vous parliez uniquement des vêtements.
Ah, je parle des vêtements.
Ah, bon, bah, d'accord.
Ah, oui, je parle de vêtements, je l'ai dit, un vêtement. Ouais. Voilà, et on en parle dans un instant avec deux actrices locales. Restez avec nous, il est 9h43.